Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective.
Votre chronique Famille Numérique présentée par Famille Rurale de l'Ain.
Mais si, je suis très bien.
Non.
Bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue pour cette 6e édition. Je suis Nathan, chargé de projet numérique à Famille Rurale et je suis ton animateur sur la chronique Famille Numérique. Au cours de ces émissions, je suis avec toi durant 15 minutes pour essayer de comprendre les technologies qui nous entourent, smartphones, gaming, réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on aborde la thématique de la pollution, ouais, la pollution numérique, et je serai accompagné pour cette chronique de Romain. Romain, bonjour.
Bonjour Nathan.
Alors, une des principales préoccupations de notre décennie, c'est bien sûr l'écologie, les énergies renouvelables et la pollution. Quand je te parle de pollution, les premières images qui te viennent sont sûrement celles liées aux voitures sillonnant les routes, les déchets échoués sur le bitume ou les grosses usines nucléaires. Mais on est loin de penser que le simple fait d'allumer son ordinateur ou d'envoyer un mail peut également avoir son impact sur notre environnement. Mais alors, la pollution numérique, c'est quoi? Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est grave? C'est tout de suite. Romain, bienvenue à toi.
Merci.
Alors, j'ai quelques questions à te poser, de sorte à ce qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt?
Ouais, complètement.
C'est pas bien compliqué. Et si tu commençais juste par te présenter, toi, et ce que tu fais?
Bien sûr, donc je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, je vis à Angoulême et je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Trizy, qui est une solution qu'on propose aux collectivités pour accompagner les habitants dans la gestion et réduction de leurs déchets. C'est un outil de communication innovant, un agent conversationnel ouais, qui répond à toutes les questions des habitants sur le tri, sur les conseils pour réduire ses déchets et l'économie circulaire autour de chez soi.
Et bon, pas de questions piège, hein. Je demande quand même, mais du coup, combien d'écrans et d'appareils connectés est-ce que tu as à la maison, comprenant tablette, téléphone, télé, ordinateur, console, frigo connecté, tout ce que tu veux?
Alors si on compte tout, au final, il doit y en avoir pas mal. À la maison, je vais avoir deux smartphones, on a deux Mac, une télé, on a deux enceintes Bluetooth, un casque sans fil, des écouteurs style AirPods, une enceinte connectée, Alexa, deux imprimantes, une vingtaine d'ampoules connectées, une balance connectée, une plaque de cuisson,
oui,
une perceuse. Enfin, pas mal de trucs connectés, quoi, au final.
Perceuse connectée? Non.
Ouais, si, si, mais j'utilise pas forcément cette fonctionnalité, mais elle l'est, quoi.
Ah, excellent, je savais même pas que ça existait.
Je découvre aussi.
Okay. Et bah super, et pour terminer, tu dérogeras pas la règle, on le demande à chaque de nos invités. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu insolite sur le numérique à nous mettre sous la dent?
Ouais, une petite histoire qui m'est arrivée pendant le premier confinement. J'étais en visio avec des clients, en fait, avec une collectivité, pour leur présenter notre solution. Et on avait des soucis à s'entendre, en fait, avec le micro. Donc, on a gardé l'outil de visio pour partager l'écran et on s'est appelé pour la voix. Et à la fin de la réunion, j'ai raccroché le téléphone et je suis allé débriefer le call avec l'équipe sur notre outil de messagerie, quoi. Et la réunion, c'était bien passé, mais les clients étaient un peu tatillons, ils posaient plein de questions un peu embêtantes et tout. Et j'ai fait un peu le débrief et je me suis rendu compte que j'avais oublié de couper mon partage d'écran, en fait. J'avais que raccroché le téléphone. Et en fait, j'ai jamais su s'ils étaient toujours sur la visio ou pas, mais au final, ils ont signé et on bosse avec eux, c'est des super clients. Donc je me dis qu'a priori, ils avaient dû couper. Mais...
Heureusement.
Du coup, voilà, petite sueur froide.
On espère qu'ils ne se reconnaîtront pas.
Exactement.
Ok, bon, bah super. Maintenant que tu t'es présenté, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'on commencerait pas par définir peut-être ou tenter d'expliquer ce qu'est la pollution numérique?
Carrément. Mais en fait, c'est assez large, la pollution numérique. Ça va être toute la pollution, en tout cas les formes de pollution qui sont engendrées par les nouvelles technologies. Donc, tu as aussi bien des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution chimique, de l'extraction des ressources naturelles, des productions de déchets électroniques. Finalement, que ça soit dû à la fabrication, à l'utilisation, à la fin de vie des appareils qu'on utilise. Donc, finalement, c'est super large et c'est toutes ces pollutions-là qui vont avoir des impacts néfastes sur l'environnement à plein d'endroits différents.
Tu aurais quelques chiffres à nous transmettre?
Ouais, t'es sûr de les vouloir? Ils font peur.
Écoute, moi
Non,
oui.
ouais. Non, le premier chiffre un peu à avoir en tête, c'est que déjà, le numérique, il est responsable quand même de 4% des émissions de gaz à effet de
Ouais.
serre à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est quand même énorme, quoi. On ne parle pas d'un infime pourcentage, quoi. 4%, c'est quand même beaucoup. Et ne serait-ce que, par exemple, le visionnage de vidéos en ligne, que ce soit Netflix, YouTube, etc., en 2018, ça a généré plus de 300 mégatonnes de CO2. Enfin, c'est juste, en fait, énormissime. Et c'est juste, ouais, juste ça. Il y a plein de chiffres qui font peur. Par exemple, la fabrication d'une télé qu'on peut avoir chez soi, qui pèse 30 kilos, elle nécessite d'extraire plus de 2,5 tonnes de matières premières, en fait, juste pour tous les composants pour fabriquer la télé. Et juste quand on se rend compte de tout ça, c'est là où on prend conscience que faire attention de la manière dont on consomme, ce qu'on achète et tout ça, ça a des impacts en fait, même si
Ouais.
ça semble invisible.
Bah, et du coup, justement, à titre personnel, comment est-ce que toi, si tu le fais, hein, tu minimises justement la pollution numérique?
Ouais, alors je suis sûrement pas le meilleur élève, je suis quand même hyper connecté. Non, mais c'est vrai, j'utilise le numérique au
Jusqu'à la
quotidien.
perceuse.
Ouais, je vois, mais même au boulot, du coup, voilà, je gère une start-up du digital, on est tous connectés, on travaille sur des sites différents au quotidien, donc forcément, on utilise beaucoup le numérique. Après, j'essaie de faire attention à ce que je fais, par exemple, tu vois, mettre des pièces jointes dans des mails, je ne vais pas les mettre si ce n'est pas nécessaire. J'essaie de vider ma corbeille de mails, de mon Mac, tu vois, il est en mode sombre, les outils que j'utilise, j'essaie de les mettre en mode sombre aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais ça réduit en fait la consommation des appareils, d'utiliser les modes sombres. J'achète du matériel reconditionné quand c'est possible. Mon ordi, c'est le cas par exemple. J'essaye de le garder aussi. Tu vois, mon ordi, il a 4 ans, mon téléphone, il a 3 ans. Alors, on peut faire mieux, mais voilà, j'essaye de pas succomber à la tentation de toujours tout changer, etc. Acheter le dernier cri tout neuf. Mais on peut toujours s'améliorer, quoi.
Oui, voilà. Bah,
L'important, c'est au moins
justement,
d'avoir conscience et.
et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour s'améliorer, éviter et pallier à cette fameuse pollution numérique?
Ouais, il y a plein de choses pour aller encore plus loin. Bah déjà, c'est vrai que quand on voit tous les ans, au mois de septembre, les keynotes d'Apple qui te vendent leurs nouveaux iPhones révolutionnaires super bien, qu'on a tous envie d'acheter et qui font finalement pas grand-chose de plus que celui d'avant, faut céder à cette tentation-là. Même de manière générale, penser est-ce qu'on peut pas réparer plutôt que racheter. Souvent, on va changer son téléphone ou son ordi parce que la batterie tient plus et en fait, on peut juste changer la batterie plutôt que de changer tout l'équipement. Il y a plein de petites choses, compresser des pièces jointes avant de les envoyer. D'ailleurs, pareil, quand on envoie un mail avec des pièces jointes, notamment, éviter de mettre 15 personnes en copie quand c'est pas nécessaire, parce que finalement, ça fait comme si on envoyait 15 mails avec à chaque fois la pièce jointe. Pas laisser, c'est classique, mais c'est beaucoup de bon sens, pas laisser ses appareils électriques allumés ou en veille inutilement. Fermer les onglets de son navigateur qu'on n'utilise pas, parce que même si c'est des onglets inactifs, derrière, ils envoient souvent beaucoup de données sur le réseau, et c'est encore du trafic et de la consommation électrique. Ajuster la luminosité de ses écrans, des trucs tout bêtes aussi, quand on est chez soi, vaut mieux privilégier en fait d'être connecté en Wi-Fi plutôt qu'en 4G pour son téléphone.
Effectivement,
Il y a un facteur de x23 entre la consommation de la 4G et du Wi-Fi. Donc, c'est plein de choses qui finalement n'ont pas d'impact important à l'usage. Ça change pas grand-chose, mais ça change grand-chose sur l'impact environnemental, quoi. C'est de connecter voilà, en Wi-Fi ou du 4G, ça ne change rien pour aller sur Facebook ou voir tes mails, mais ça aide la planète à aller mieux, donc autant le faire.
Du coup, bon bah, quand on prend l'exemple et qu'on parle de la pollution automobile, on peut se projeter un petit peu dans le futur en envisageant par exemple une réduction de cette pollution avec l'arrivée des voitures électriques, enfin, du moins on espère. Mais du coup, quelle évolution est-ce que tu vois s'il y en a à propos de la pollution numérique d'ici, on va dire 20-30 ans?
Mais déjà, une chose, on n'en a pas encore parlé, mais un des gros responsables de cette pollution numérique, c'est les data centers, tous les gros serveurs qui hébergent tous les sites qu'on peut utiliser. Et de plus en plus, on parle un peu de data center green, qui sont alimentés voilà, par de l'énergie renouvelable, qui utilisent toute la chaleur produite par les serveurs pour chauffer de l'eau, chauffer des logements, etc. Donc ça déjà, c'est des choses qui commencent doucement à arriver et qui vont faire du bien dans les années à venir. Et après, pour aller encore plus loin, mais c'est un espèce de retour en arrière. Finalement, aujourd'hui, tous les téléphones, tous les appareils, ils ont des pièces qui sont super spécifiques. Et finalement, je pense qu'il y a un retour un peu à la standardisation qui va se faire. Et finalement, peu importe la marque de l'ordinateur, de la télé, du téléphone qu'on va acheter, ben, on aura peut-être des pièces qui seront les mêmes, qu'on pourra facilement changer, réparer. On aura des appareils où tout sera pas forcément collé, soudé, où aujourd'hui, c'est compliqué de faire quoi que ce soit dessus. D'ailleurs, il y a l'indice de réparabilité là qui est obligatoire sur les appareils électroniques depuis le 1er janvier. Donc ça commence à inciter les gens à se poser ces questions-là, et les marques, si elles ne veulent pas avoir des mauvaises notes, elles vont être obligées de donner des pièces détachées, de faire en sorte que les appareils soient réparables, de donner les notices de démontage, etc. Donc ça va quand même dans la bonne direction. Et après, il y a plein d'évolutions technologiques aussi. Il y a des batteries qui vont être de plus en plus performantes, qu'on va avoir moins de pertes d'énergie entre l'électricité du réseau quand on charge sa batterie et puis la vraie énergie qui est restituée. On aura moins de pertes. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal la course à la puissance, que ce soit les téléphones, sur les ordinateurs. C'est voilà, les processeurs toujours plus puissants, mais à un moment, on n'aura plus besoin de plus de puissance, mais ce sera plutôt comment on optimise plutôt l'énergie pour, avec la même énergie, faire des choses encore plus longtemps. Et donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger dans les années à venir et dans la bonne direction, en tout cas, on espère.
On espère, ouais. Du coup, dernière petite question pour terminer. On blâme beaucoup le numérique, mais est-ce que le numérique ne diminue-t-il pas cependant l'empreinte carbone? Est-ce qu'il ne contribue pas à réduire l'empreinte écologique?
Bah, déjà, la première chose qui me semble importante, c'est que le numérique, il faut oublier que ça reste un outil. Je pense, bah, finalement, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est comme, il y a plein de débats, c'est autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense que c'est ni bien ni mal. C'est l'usage qu'on en fait qui peut l'être. Je pense que c'est un peu pareil avec le numérique. Il y a plein d'usages du numérique qui permettent de faire des choses vraiment intéressantes pour l'environnement. On l'a vu avec la situation sanitaire l'année dernière, et là encore avec l'augmentation du télétravail et des visioconférences, il y a une diminution d'utilisation des véhicules pour aller au travail, des déplacements, économie de papier. Il y a plein de choses qui ont été assez positive. Et même au-delà de ça, le numérique, c'est aussi un accès à l'information. C'est aussi une manière de voilà faire plein de choses qui ne seraient pas possibles sans le numérique. Enfin, tu vois, des applis comme des applis, tu vois, par exemple, pour organiser des clean walks, pour aller nettoyer des villes ou des plages, ramasser les déchets. Ça, c'est le numérique qui peut créer des communautés, qui peut faire tout ça. Et tu vois, des applis comme Yuka aussi qui ont quand même des impacts positifs sur la manière dont on consomme. Donc c'est aussi tous ces usages-là qui sont possibles à travers le numérique. Et heureusement qu'il y a beaucoup de choses positives derrière ça, quoi.
Mais merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, si tu acceptes de relever le défi, j'ai un petit quiz à te faire passer.
Allons-y.
Eh bien, c'est parti. Alors, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt. Tu me fais un peu peur, mais allons-y.
Ben, il y a de quoi, je te rassure, il y a de quoi. Alors, je t'explique rapidement. Le quiz se déroule du coup en 4 questions, rapportant un point chacune. Les deux premières sont sous forme de oui ou non et les deux dernières sous forme de QCM. C'est parti. L'envoi de 20 mails pollue plus qu'une vache qui pète toute une journée. Vrai ou faux?
Mais... Je dirais vrai.
Eh bien, ça aurait pu, mais c'est faux. À 140, à 140 grammes donc de CO2 près, la vache pollue plus en une journée.
Ok, on rajoute une pièce jointe dans le mail et puis c'est bon, le mail pollue
Ah,
plus.
du coup, ouais, voilà, je comptais avec pièce jointe, mais
C'est
oui,
ça?
effectivement, on
Ok.
rajoute 2-3 pièces jointes dans le mail et puis. Donc, toujours vrai ou faux? Un mail parcourt 1500 km avant d'arriver à son destinataire. Vrai ou faux?
Je dirais plutôt x10.
X10?
Ouais, je dirais plutôt autour de 15 000, ouais.
Donc on part
Parce
sur
que
du faux?
ça, ouais, on part sur du faux, ça navigue pas mal,
Eh ben, c'est la bonne réponse et c'est exactement ça. La distance moyenne parcourue par une donnée numérique, donc que ce soit mail, vidéo, etc., elle est effectivement de 15 000 km en
ouais.
moyenne. Ce qui est quand même énorme, moi je le ferai pas à pied.
C'est clair.
On passe du coup au QCM.
Ouais.
Alors, sais-tu qu'en faisant une simple recherche sur Internet, tu pollues? En appuyant simplement sur le bouton Recherche de Google, nous émettons l'équivalent de réponse A, 1 à 2 grammes de CO2, B, 5 à 7 grammes de CO2, C, 20 à 30 grammes de CO2. Je peux répéter.
Non, enfin, je les ai, je dirais B.
B? Bah, mais si t'as toutes les
Ouais.
réponses. Super, bah c'est une bonne réponse. Envoyer un simple mail rejette 10 grammes de CO2, soit l'équivalent de ce que peut absorber un arbre en 1 minute, 1 heure ou une journée.
Une journée?
Eh bah, ben, c'est encore une bonne réponse. Et je te
Top.
félicite. Je te félicite. Eh bien, super, je te remercie.
Eh ben top, mais merci à toi.
Et merci à toi de nous avoir écoutés. Tu peux réécouter cette chronique depuis les sites de Radio B. On se retrouve le mois prochain, même heure. En attendant, tu peux nous retrouver sur Facebook sous le nom de Famille Rurale de l'Ain et YouTube sous le nom de Femmes Viriles et Hommes Sensibles. Bonne journée à tous.
Bonne journée, merci
Ah,
beaucoup.
c'est tout simplement une hallucination collective.
Votre chronique Famille Numérique présentée par Famille Rurale de l'Ain.
Mais si, je suis très bien.
Non.